On continue notre étude sur le guide de prière. On a vu plusieurs points qu'il fallait prier dans le guide de prière. C'est tout comme des versets qu'on retrouve dans la Bible dans lesquels Dieu nous demande de prier. On a vu plusieurs points qui étaient de prier pour notre croissance spirituelle. Puis là, depuis quelques semaines, quelques études qu'on fait, on prie pour les autres. On apprend à prier pour les autres. C'est toujours basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs promesses, il y a plusieurs points qu'on voit que c'est dans la volonté de Dieu que les chrétiens embarquent dans la prière. C'est important parce que c'est ce que Dieu a décidé pour que ça fasse avancer son œuvre. Dieu a choisi d'établir un plan dans lequel on a un rôle actif à avoir pour que les choses avancent. Souvent, on voit que les choses bougent pas trop, on se demande pourquoi, mais le problème, c'est pas Dieu. Puis le problème, c'est pas les promesses de Dieu. Le problème, c'est nous qui prend pas assez à cœur les choses pour commencer à prier et intercéder. On va voir des choses ce soir, des beaux versets qui vont nous édifier dans ce sens-là. Les enfants de Dieu sont utilisés par Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Si Dieu aurait voulu faire un système que c'est juste lui qui fait tout, il n'aurait pas demandé aux disciples d'aller, puis de faire des disciples, puis des enseignants. Il n'aurait pas demandé aux disciples de veiller et prier. Il n'aurait pas demandé aux disciples de servir, puis de se donner, puis de chercher à édifier les autres. Tous ces versets-là, ils ne seraient pas écrits dans la parole de Dieu. Si Dieu aurait choisi de faire le plan de la vie, il aura dit, restez assis, je vais tout faire tout seul. Puis là, il n'aura pas eu besoin que quelqu'un vienne nous parler de Jésus, qu'on aura accepté, parce qu'il sera tous, Jésus, ça sera révélé, il aura apparu à chacun de nous, puis toute notre vie chrétienne, on aura reçu nos enseignements directs de Jésus. Mais c'est pas de même, ça marche. Dieu a choisi de donner des ministères dans l'Église, de donner des dons à des personnes pour être dans le ministère. Puis les personnes exercent leur ministère, que ce soit le ministère au niveau de l'enseignement ou des ministères au niveau de l'évangélisation. Ça prend des gens qui allent évangéliser. Ça prend des gens, après ça, quand ils ramassent les disciples. Ça prend des gens qui enseignent, qui expliquent la parole de Dieu. Puis c'est de même, ça marche. Mais aussi pour la prière, c'est la même chose. La prière fait partie du plan de Dieu. Le moyen principal que Dieu utilise, parce que la phrase que je vous dis, c'est que les enfants de Dieu sont utilisés par Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur terre. Mais le moyen principal pour faire avancer les choses de Dieu sur terre, c'est la prière. C'est pas nos capacités, c'est pas parce qu'on est bon que les choses vont changer. Dieu a choisi de nous utiliser. Mais c'est pas parce qu'on est bon qu'on va être efficace puis qu'on va amasser beaucoup d'âmes ou qu'on va amener des disciples à grandir. C'est parce que c'est Dieu qui agit à travers de nous. Puis pour que Dieu agisse à travers de nous, on prie pour que Dieu nous utilise. On prie pour que Dieu nous rouvre les portes. On prie que Dieu donne son onction. On prie pour que Dieu fasse le travail. Dieu va agir, mais il a choisi de nous utiliser. Puis il veut qu'on utilise la prière comme moyen pour combattre dans son œuvre. Dans 1 Thessaloniciens 5, 25, ça dit, « Frères, priez pour nous. » On voit que l'apôtre Paul, en disant cette simple phrase, c'était pour dire, « On n'est pas capable tout seul. » L'ampleur du travail est trop grande. Puis s'il faut qu'il se passe quelque chose dans notre vie, on a besoin de vos prières. Si Paul, qui était Paul, demandait qu'on prie pour lui, ben je vous demande de prier pour moi, parce que j'en ai encore bien plus de besoin que lui. Je suis bien moins, j'y arrive pas à la cheville. Lorsque ceux qui prient pour ceux qui sont au front, ben nous combattons ensemble. Parce qu'il faut le dire que plus il y a du monde qui sont plus au front que d'autres. Quand que je dis au front, c'est d'aller au-devant, s'exposer, parler devant tout le monde. C'est pas tous les chrétiens qui font cela, mais il y a des chrétiens qui le font. Tous les prédicateurs le font, ceux qui prêchent en avant, puis il y a souvent des nouveaux qui viennent, puis c'est sûr qu'on croit qu'on est dans notre droit de le faire, mais même si on serait dans un pays qu'on n'a pas le droit, tu t'exposes ta vie, tu t'exposes publiquement en parlant ouvertement dans le nom de Jésus. Fait que t'es au front. Puis quand tu vas évangéliser dehors, puis t'es sur un coin de rue où tu fais du porte-à-porte pour répandre la parole, t'es au front. Puis quand t'es au front, t'es direct à exposer, t'as besoin de soutien dans la prière. Mais les autres qui prient pour ceux qui sont au front, quand tu pries, lorsque ceux qui prient pour ceux qui sont au front, ben nous combattons ensemble. C'est un combat ensemble. On n'a pas besoin que toute l'Église soit à la porte du voisin, là. Juste un, deux. Jésus les envoyait deux par deux, les autres priaient. Mais t'es en train de combattre. Quand tu pries et t'intercèdes pour ceux qui travaillent dans l'œuvre, peu importe l'œuvre que c'est, même une mission d'installer des églises, puis etc. Mais tout a besoin de prière. Puis quand tout le monde prie, mais tout le monde combat avec ceux qui sont au front. Puis ça fait partie du plan de Dieu. Quand l'Église d'Antioche a envoyé l'apôtre Paul, le Saint-Esprit a dit, par prophétie, mettez-nous à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il était appelé. Appelé par Dieu de partir en mission. Est-ce que toute l'Église a suivi Paul et Barnabas? Non. Mais est-ce que toute l'Église a prié pour Paul et Barnabas? Oui. Fait que Paul et Barnabas sont partis au front, puis les autres priaient pour eux. Puis c'est de même qu'il y a eu de l'efficacité dans son témoignage. Même dans les moments qui semblent des moments d'arrêt, parce que quand Paul se retrouve en prison, c'est comme si on se dit, mais ceux qui sont au front sont en prison, il n'y a plus rien qui bouge, même si ça semble arrêter. Le fait de continuer à prier pour les personnes qui sont arrêtées, mais la prière prépare déjà l'ouverture de la nouvelle porte. Ils sont arrêtés, mais ceux qui prient n'arrêtent pas. Ils prient encore pour ceux qui sont arrêtés, pour que Dieu rouvre leurs portes, puis que Dieu rouvre d'autres portes après dans l'œuvre. Voyez-vous, la prière, elle n'arrête jamais. Elle devrait, en principe, jamais arrêter. Je dis pas qu'elle arrête jamais. Je dis, elle devrait, en principe, jamais arrêter. Il y a du monde qui sont au-devant, puis on prie pour eux, on prie pour l'œuvre. Puis quand ça semble arrêter, il faut continuer à prier pour que Dieu rouvre encore des nouvelles portes. Puis c'est de même que ça marche. Puis c'est de même que c'était dans les Actes. Puis c'est de même que ça doit être encore aujourd'hui. Dans Colossiens, chapitre 4, le verset 3 et 4, l'apôtre Paul, il dit « Priez en même temps pour nous ». À plusieurs versets que tu vois que l'apôtre Paul demande des prières. Il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ dans lequel je suis, dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en faire, comme je dois en parler. » Dans ce passage-là, ce qu'il faut remarquer, c'est que Paul, il était en prison. Il était dans les chaînes. Là, il dit, priez pour nous afin que Dieu nous rouvre une porte pour qu'on puisse répandre la parole. C'est quelle la première porte, vous pensez, que Dieu était pour les ouvrir? C'est la porte de la prison, parce qu'il est emprisonné. Paul, il est emprisonné, puis il demandait aux gens, priez pour nous pour que Dieu nous rouvre une porte pour qu'on puisse répandre la parole comme je dois en parler. Il dit dans ce verset-là qu'il est dans les chaînes. Il est emprisonné. Fait que la première porte que Dieu t'a pour y ouvrir, c'était la porte de la prison. Puis après ça, c'est les autres portes. Faut qu'il puisse en parler. C'est pour ça que je vous disais, même si t'es arrêté, l'œuvre est semble arrêtée. Peu importe la raison, eux autres étaient en prison, l'œuvre semblait arrêtée. Mais les prières devaient pas arrêter. Paul demande encore des prières pour que sa porte soit ouverte. la porte de la prison soit ouverte, puis les portes qu'il aura besoin pour qu'il puisse parler de la parole. Voyez-vous, il y a quelque chose de puissant dans la prière. Il faut réaliser, frères et sœurs, que le plus gros de l'œuvre se fait dans la prière. Tous les ministères, c'est pas des fers. Toutes les grosses églises passent beaucoup de temps dans la prière, le jeûne, puis ils demandent à Dieu d'ouvrir des portes. Puis tous les gros ministères comme Billy Graham, ils ont des grosses équipes de prière. Puis partout où ils vont, c'est préparé en prière. Mettons, s'ils font une campagne d'évangélisation à Montréal, les prières commençaient des mois avant. Pour prier pour Montréal, prier pour que ça se déroule bien, puis en même temps que l'onction soit là, puis en même temps qu'il y ait des âmes qui ont besoin du salut soient là, puis en même temps que le Saint-Esprit puisse les toucher pour qu'ils soient sauvés, puis en même temps que les gens acceptent le Seigneur, mais qu'ils persévèrent. Puis de la prière, il y en a avant, pendant, puis après. Ils lâchent pas de prier. C'est des ministères. Il y a du monde qui sont à semaine longue, à part de leur travail, bien entendu, mais à semaine longue dans la prière puis dans le jeûne. Ça devient leur ministère. C'est sûr que Billy Graham priait lui aussi, ou comme tout n'importe quel, comme Claude Hood, sont de la grosse église qu'ils ont, mais ils prient beaucoup. Ils sont tout le temps dans la prière puis déclarer des jeûnes à l'année longue. Ils en ont régulièrement. Puis il se passe des miracles. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'hommes qui acceptent le Seigneur. Puis c'est ça qu'on veut voir aussi ici. Dans le Québec, c'est une terre qui est dure, mais ça prend de quoi de solide pour tout ébranler. C'est dans la prière que ça se passe. Si on veut voir les choses se changer, on veut voir des portes s'ouvrir, on veut voir des âmes sauvées, mais il faut rentrer dans le combat. C'est des prières. Priez pour les prédicateurs. Prier pour les prédicateurs, ça permet, lorsqu'ils ouvrent la bouche, de laisser sortir le message puissant de l'Évangile. Paul, il dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 19 et 20, il dit encore, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. L'apôtre Paul, là, c'est un gars instruit, c'est un gars connaissant. Il disait dans un verset, j'ai pas la sagesse du langage, mais il avait le courage, puis il avait la détermination, puis il avait pas la langue dans sa poche, puis il était pas gêné, puis quand il ouvrait la bouche, que ce soit que devant quelqu'un qui était inconverti puis qui était méchant, comme Élimas le magicien, il a dit direct, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Puis là, il a dit une parole que le gars est tombé aveugle. Puis il prenait position devant la foule, puis il dit qu'il me soit permis de parler, puis il ouvrait la bouche, puis il proclamait. C'est un gars instruit, un gars connaissant. C'est un gars qui avait pas de facilité à s'exprimer, mais il était pas borré. Mais qu'est-ce qui lui donnait la force pour le faire? Les prières. Il priait à Dieu puis il demandait aux autres de prier pour lui. C'est ce qu'il nous dit dans ce verset-là. Priez pour moi afin qu'il me soit donné. Pourtant, l'apôtre Paul, il avait de l'air à connaître sa Bible. Mais il avait besoin que le message lui soit donné. C'est la même chose pour tous les prédicateurs. Puis je vous le dis tout de suite, si Dieu m'inspire pour ce que je vous apporte comme message, là, hein, c'est pas parce que je suis intelligent, puis c'est pas parce que je suis instruit, puis c'est pas parce que... C'est vraiment des révélations de Dieu. Il me donne ce qu'il faut, quand qu'il faut. Puis j'ai rien d'avance dans le sens... C'est à mesure. Je suis pas un savant. Il y en a des gens, là, des savants, là, qui vont parler, là, ils parlent, puis ça sort, puis ils ont même pas besoin de se préparer. Ils maîtrisent les sujets, puis ils vont parler avec une mémoire incroyable en tenant les dates des événements, puis ils te racontent les récits. Mais ça, c'est du monde qui l'ont en dedans d'eux. Mais quand tu ne l'as pas de même, où est-ce que ça va venir, ce que tu dois dire? Mais ça vient des révélations de Dieu. Le Saint-Esprit te le donne à mesure, ce que tu as besoin de dire. Puis les gens qui reçoivent, mais ils sont bénis parce que c'est comme s'ils entendent Dieu leur parler. Les gens reçoivent des choses, puis ils sentent que Dieu veut les faire grandir, que Dieu veut les équiper. Ils sentent, ils entendent des choses, puis c'est comme s'ils apprennent tout le temps. Même si c'est des choses qu'on sait déjà, ça fait du bien de se le faire redire. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Puis on a besoin que des gens prient pour nous, qui amenons la parole, puis c'est autant pour moi, là, je le prends pour moi. Tout ce que l'apôtre Paul demande, je le demande aussi pour moi. Pour que l'œuvre avance, pour que le travail soit fait, pour que l'inspiration me soit donnée, que quand je rouvre la bouche, que je puisse faire connaître hardiment puis librement le mystère de l'Évangile. Parce qu'il y a des mystères dans l'Évangile. C'est caché. C'est comme un trésor qu'on rouvre, puis on a des choses anciennes, puis on a des choses nouvelles. Les mystères nous sont révélés, on comprend la parole, parce que le Saint-Esprit nous la révèle au fur et à mesure. Puis tout le monde grandit. Le prédicateur, ça lui est donné, puis là, il grandit lui-ci, puis là, il passe le message, puis les autres avec grandissent. Tout le monde est édifié si on reçoit de Dieu les révélations. C'est pour ça qu'il faut prier. Priez pour moi, comme l'apôtre Paul se le disait, parce qu'on est des ambassadeurs, on est des représentants du royaume de Dieu. On doit parler avec assurance de ce qu'on doit dire. Parce que des fois, la nature humaine, tout dépendant quel genre de nature que tu es en partant, tu es gêné des fois, tu es un timide, tu es peut-être un gars qui est intimidé quand tu étais jeune, puis tu as eu bien du rejet. Puis tu as des blessures qui ne sont pas encore guéries. Faut que tu rouvres la bouche puis que tu parles avec assurance, mais tu as des blessures en dedans de toi, tu as toutes sortes d'affaires dans des choses, peut-être des faux raisonnements, même qui t'empêchent de t'exprimer avec assurance. On parle, puis on doute, pas douter, mais on parle, puis on n'a pas le punch qu'on serait supposé d'avoir. Puis ça, on a besoin de cela. Qu'on regarde les gens dans les yeux, puis qu'on puisse, tu sais, pour montrer qu'on croit ce qu'on vit. Mais pour être comme ça, tu as besoin de prière. Parce que dans la nature humaine, on ne l'a pas par défaut. Il y en a quelques-uns qui l'ont, mais pas tout le monde. Puis c'est pour ça que Paul, lui, n'avait de besoin, lui-ci. Même si c'est un fonceur, il le demandait. Il a besoin d'assurance. Puis il dit, il fallait pour que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Un prédicateur doit parler avec assurance. C'est pour ça qu'il a besoin de prière, qu'on le soutienne dans la prière. La prière permet à la parole de Dieu de se répandre, puis elle amène la gloire de Dieu quand elle passe. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 1, ça dit, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Ce que je remarque dans ce passage-là, on le sait que la parole de Dieu, c'est une puissance. Il dit, l'Évangile, là, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. On croit aussi que la Bible, la parole de Dieu, c'est un épée, c'est l'épée de l'Esprit. À pénètre âme et esprit, jointure et moelle. C'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu. Puis dans ce verset-là, c'est en train de nous dire qu'elle n'a pas réellement d'efficacité s'il n'y a pas de prière. C'est ça que ça nous dit. Il dit, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Ça veut dire qu'elle n'aura peut-être pas d'effet, la parole de Dieu, dans la vie de certaines personnes qui vont la recevoir s'il n'y a pas de prière. C'est ça que ça nous dit. Il dit, afin que la parole se répande et soit glorifiée. Pour que la parole soit glorifiée, Ça veut dire que la personne doit la recevoir. Ça veut dire qu'il faut qu'elle ait eu un impact dans le cœur, dans la vie de la personne qui l'a entendue. Pour qu'elle ait un impact, une fois qu'elle a l'impact, là, la personne va glorifier Dieu pour la parole qu'elle a entendue. Mais il dit, ça prend de la prière pour que la parole ait un impact, que le gars puisse glorifier Dieu. Ça veut dire que dans tout travail, oui, on croit que la parole est puissante. Oui, on croit que la parole peut sauver des vies, puis qu'elle est une épée qui pénètre. Mais on croit aussi par ces passages-là que la prière doit accompagner le service de répandre la parole pour que ça se répande facilement, puis que ça puisse toucher des cœurs, des vies, transformer des vies, puis qu'il y a les gens qui vont glorifier Dieu à cause qu'ils ont compris la parole, puis qu'ils vont, rendre gloire à Dieu, voyez-vous. Puis c'est ça qui est le but. On veut répandre la parole, c'est une chose, mais pour que ça soit efficace, puis que ça ait le punch que ça devrait avoir, ça prend de la prière. Puis il faut combattre dans la prière, comme je le disais tantôt, avant, pendant, puis après. Sans arrêt. Ça prend une équipe de prière. Ça prend des gens qui prient pour l'Église, prient pour les ministères, prient pour l'œuvre de Dieu, puis prient pour le salut des âmes, prient pour... Il faut embarquer dans ce combat-là, frères et sœurs. Ça fait partie du plan de Dieu qu'on prie. Y a-t-il quelqu'un qui a un doute sur la prière? Avec les versets qu'on voit là, wow! Merci, Seigneur. Les ouvriers... En principe, là, tous les ouvriers du Seigneur croient à l'efficacité de la prière et leur permettent d'espérer au miracle. La prière, ils croient que la prière va leur permettre d'espérer au miracle. C'est-tu important de voir des miracles quand on prêche la parole de Dieu? C'est écrit dans la parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis ça dit, le Seigneur accompagnait par des miracles. Il accompagnait pour confirmer la parole qui était annoncée. C'est comme le sceau, c'est comme la cerise sur le sundae. Quand il y a un miracle, là, c'est la cerise sur le sundae. Mais regardez bien le miracle dans ce passage-là, dans Philémon chapitre 1, verset 22. Paul est encore en prison quand il écrit ça, puis il dit, « En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Voyez-vous, dans ce passage-là, l'apôtre Paul croyait au miracle. Il savait qu'il était en prison, mais il savait que les prières des frères et sœurs lui permettraient de devenir libre, puis qu'on fait ça déjà, « Prépare-moi un logement. » Parce qu'il était sûr que vos prières vont faire que je sois libre, puis je vais aller vous rejoindre. « Prépare-moi déjà un logement. » Ça, là, c'est ça des miracles. Des fois, on cherche une guérison. Oui, on les veut, les guérisons. Mais quand tu as des affaires comme ça, une personne se fait mettre en prison, tu pries pour lui pour qu'il soit libéré, puis il croyait qu'il était pour être libéré, puis il confessait déjà sa victoire, puis il disait d'avance qu'il va être libre, puis qu'il était sûr d'être libre grâce à vos prières, puis il dit « Prépare-moi un logement. » Tu vois que c'est un gars de foi. Puis il s'attendait à voir ces miracles-là. Puis il savait que grâce à la prière des frères, qu'il était pour sortir. C'est pas beau, ça? Oui, c'est super beau. Merci, Seigneur. Oui, il y avait la foi. Puis c'est ça qu'il faut, c'est de même qu'il faut apprendre à fonctionner. Pas confesser ce qui va mal. Confesser plutôt ce que Dieu va faire. Parce qu'on croit que Dieu répond aux prières. Amen. Amen. Paul, il a vécu des moments qui aura pu perdre la vie. Puis pas juste une fois. Il a fait des naufrages, il a été lapidé. Quand il a été laissé, il était laissé comme mort quand il a été lapidé. Il aura pu perdre la vie, mais il espérait toujours que Dieu exaucerait les prières des enfants de Dieu. Philippiens 1:19. Il dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Voyez-vous encore, Paul est en prison, C'est Paul, c'est pas Pierre. Pourquoi j'ai dit Pierre, je ne sais pas, c'est Paul. Paul, il est en prison, puis il savait que ça tournerait à son salut, dans le sens qu'il ne se ferait pas mettre à mort. Parce que à tout bout de champ, il y avait des condamnations que le monde essayait d'y donner pour qu'il soit puni de mort. Puis, lui, il savait que ça tournerait à son salut, dans le sens, pas pour être sauvé, il l'est déjà sauvé. Sauvé de la prison, sauvé des conséquences de ce que les humains voulaient faire. Il savait que grâce aux prières des frères, sa vie serait épargnée. C'est ça qui est le but. Grâce aux prières. C'est pour ça qu'un gars qui est envoyé dans la mission au front, travailler dans l'œuvre de Dieu, il a besoin de se sentir appuyé. Comment est-ce qu'un gars de même qui est au front, exposé, pour exposer sa vie devant tout le monde, se sent appuyé? Comment est-ce qu'il va se sentir appuyé? C'est s'il sait qu'il y a du monde qui prie pour lui. Si les gens qui sont en arrière, ici, puis il n'y a pas juste une église, là, on voit l'église de Romains, Colossiens, Éphésiens, Thessaloniciens, Philémon, Philippiens, toutes les villes différentes qui ont demandé des prières. Il savait, puis il lui disait à chaque place là, qu'il faisait envoyer ses lettres, il savait que le monde priait pour lui, puis il savait qu'il était pour être exaucé. Il se sentait appuyé, puis il savait que Dieu était pour le sortir de là, puis qu'il va être sauvé, qu'il va garder la vie. C'est extraordinaire. Lorsque nous ne voyons pas de résultats, parce que des fois, ça peut arriver qu'on prie, puis on ne voit pas tout de suite les résultats. On prie pour le salut des âmes, on prie pour nos familles, on prie pour nos voisins, on prie pour le monde de Beauharnois, Châteauguay, les villes et les villages environnants, on prie pour notre pays. Mais ça arrive qu'il y a des périodes de prière, mais qu'on ne voit pas de résultats de suite. Au lieu de se décourager, ce qu'on devra faire, c'est de redoubler d'intensité dans la prière. Quand tu vois que ça ne bouge plus, c'est pas le temps de baisser les bras, c'est le temps de redoubler d'intensité dans la prière. Parce que Dieu y exauce. Les délais, c'est pour nous faire un sprint. C'est pour faire, pareil comme la course du marathon de Boston, là, est 26 000. La course. Mais le dernier 3000, là, c'est une côte qui s'en va en remontant. C'est là que le monde, ils ont besoin d'être entraînés pour monter le dernier stretch. Mais les longues périodes qu'on ne voit pas rien, là, c'est un peu comme le 3000 qu'on fait en dernier. Puis là, il est plus dur que le restant. On ne voit pas de résultats, on aurait le goût de lâcher, ou on est fatigué, on est tanné, on est découragé, peu importe comment est-ce qu'on se sent. Mais faut pas se relâcher parce que le résultat, c'est de se rendre à la ligne d'arrivée. Puis la ligne d'arrivée, c'est l'exaucement de prière. Faut pas lâcher avant d'avoir atteint l'exaucement de prière. Faut prier jusqu'à temps qu'on ait notre réponse. Dans Hébreux 13, versets 18 et 19, ça nous dit, priez pour nous. C'est encore, on ne sait pas si c'est l'apôtre Paul, on pense que c'est l'apôtre Paul qui écrit dans Hébreu. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toute chose nous bien conduire. Puis le verset 19, c'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Voyez-vous, ça faisait un bout probablement qu'il était en prison. Puis il voulait qu'il soit rendu plus tôt. Les gars auraient pu dire, ça fait déjà 6 mois qu'on prie pour lui, ou 1 an qu'on prie pour lui. On commence cette année de prier pour lui. Mais lui, ce qu'il dit, on croit qu'on a une bonne conscience. On n'est pas des menteurs, des voleurs, des hypocrites, on n'est pas des faux prophètes, on est des vrais. Il dit, priez pour nous. Puis il dit, c'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Puis c'est ça qu'il faut faire, frères et sœurs. C'est quand il y a des délais, puis que ça semble long, on voudrait se décourager. Faut pas se décourager. Prions avec instance. Puis on pourra avoir des exaucements de prière plus tôt qu'on serait supposé. Parce que Dieu, il entend, puis Dieu, il aime voir la foi, puis il honore la foi. Dieu, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, bien, Dieu est content de te le remettre. Il va te bénir, il va te combler, il va exaucer tes prières. C'est ça qu'on veut en venir. De prier pour l'Église, les ministères, prier pour tout ce qui le roulement des assemblées, pour que l'onction soit là, la révélation soit là, pour qu'on ait à le porter à parole, que le témoignage, les portes s'ouvrent, qu'on puisse trouver des âmes qui sont prêtes à accepter Jésus, qu'on les amène au Seigneur, puis qu'on puisse les former, mais en faire des disciples. Puis même les brebis qui viennent, faut prier pour eux, pour que le Seigneur les fortifie, puis les garde dans la foi, puis qu'il leur donne la victoire dans leur combat. Mais c'est dans la prière que ça se passe. Prier pour ceux qui dirigent dans l'Église, ceux qui sont là. Des fois, on se plaint de ce que les réunions sont ennuyantes. Je dis pas ça que j'ai entendu ça ici, j'ai pas entendu ça ici, mais j'ai déjà entendu ça dans des églises, que le monde trouvait les réunions ennuyantes, sans vie. Mais prions-nous pour ceux qui dirigent les réunions, dans le sens ceux qui conduisent la louange, ceux qui emmènent la prédication de la parole, pour ceux qui travaillent pour que l'Église reçoive. Mais pour que l'Église reçoive, il faut que tout le monde embarque dans la prière, dans l'intercession, que Dieu lui donne de pouvoir parler avec assurance, puis parler avec l'inspiration, puis parler avec l'onction, puis que s'il y a des prières qui se font, que Dieu exauce les prières. Il faut prier pour les réunions, pour que l'Esprit de Dieu agisse avec puissance, puis que les gens sortent de l'Église édifiés, fortifiés, restaurés, que ça fait du bien quand on va à l'Église, qu'on sorte souriant, rempli de joie, puis qu'on a été rencontré par le Seigneur. Puis c'est de même, une Église qui prie va vivre cela, puis tout le monde va en ressentir les effets bénéfiques, parce que Dieu va le faire. C'est là, dans les sujets de prière, là, c'est écrit. Les pasteurs, les anciens, les enseignants, les diacres, les comités d'évangélisation, les responsables des codes du dimanche, les musiciens. C'est des sujets de prière. Il y a aussi, en arrière, si vous reverrez il y a prier pour les différents ministères, parce que les réunions régulières, les réunions d'évangélisation, s'il y a des cellules maison, des réunions de cellules maison, les ministères d'évangélisation pour les enfants, avec l'école du dimanche, puis tout ça, nos missionnaires sont support des missionnaires, il faut prier pour les missionnaires. C'est tous des sujets qu'il faut qu'on embarque en prière. Puis s'il arrête de ces sujets-là qu'on n'a pas encore, mais sûrement que Dieu va vouloir qu'on embarque avec pour aider des missions. Comme là, on aide les Gédéons, il faut prier pour les Gédéons, parce qu'ils répandent la bonne nouvelle, la parole de Dieu, ils répandent des Bibles partout. Mais il faut prier pour c'est ça nos missions qu'on supporte présentement. Prions aussi pour la vision de l'Église. La vision, on a une vision qu'on veut grandir comme Église, on veut une croissance, on veut qu'il y ait des âmes qui s'ajoutent, on veut que les disciples qui sont déjà là, qui se fortifient dans le Seigneur. Puis s'il y a des activités, comme qu'on a une activité de faire un repas de Noël, c'est une activité qui a besoin de soutien dans la prière pour que ça puisse toucher des cœurs, des vies, puis qu'il y ait d'autres âmes qui s'ajoutent à l'Église. C'est tout œuvre, que ce soit nos activités à l'extérieur ou des soirées café chrétien ou des soirées de louange. Toutes les réunions sont bonnes pour sauver quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, Jésus, est dans l'Église, puis il va agir dans les cœurs pendant qu'on est là. Pendant qu'on est réunis, puis si la personne est là, il va être touché par le Seigneur. Je le crois, que Dieu touche les gens dans l'Église. Parce que son esprit est là, puis dans louange, les gens vont être touchés. Mais ça prend de la prière. Si on ne prie pas, puis on se dit, on s'en fout qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Ben, il ne sera pas là, puis ça, il se passera rien, puis on ne verra rien. Pis on ne verra pas les gens sortir, rencontrer. Prions pour la vision de l'Église, prions pour les projets divers, prions pour l'inspiration, pour les directives, parce que Dieu a besoin de nous diriger dans les décisions qu'on a à prendre. Prions pour l'unité dans l'Église, prions pour l'amour, de la joie dans l'Église, puis dans le service, parce que tout le monde, quand une fois qu'ils sont embarqués, puis ils vivent, sont heureux. On est heureux dans notre activité, que Jacques nous dit. Amen.